Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Nous revenons en compagnie de Michel Serrault en plein succès de La Cage aux Folles. D'ailleurs, La Cage aux Folles au théâtre, c'était une aventure absolument imprévisible presque chaque soir, puisque l'auteur Jean Poiré et comédien et Michel Serrault rajoutaient des répliques en retranché au point que le spectacle pouvait durer, ont-ils dit, jusqu'à 2 heures de plus que prévu. Et en plein succès de La Cage aux Folles au théâtre, Michel Serrault est frappé par la chose la pire qui puisse sans doute arriver à un homme et à une femme, la mort d'un enfant. Voici comment, des années plus tard, il raconte. Je jouais La Cage aux Folles quand le malheur absolu me frappa. La pire douleur pour un père. Un soir de 1977, tout près de chez nous, à Neuilly, ma fille Caroline fut victime d'un accident de voiture et perdit la vie. Elle avait 19 ans. C'était une belle jeune fille, vive, sensible, douée. Tous les parents qui ont connu ce drame comprendront ce que je veux dire en affirmant qu'on ne sait pas ce qui arrive dans ces moments-là. On ne sait pas. Un gouffre s'ouvre sous vos pieds, tout bascule, tout se dérobe. J'ai songé que Dieu m'envoyait un châtiment, mais que la dette était assez élevée pour justifier pareille souffrance. J'avais fait le métier dont j'avais rêvé, j'avais réussi, était-ce cela? J'aurais tout donné de moi et ma vie en premier lieu, mais Dieu ne pouvait exiger que ce soit ma petite Caroline qui s'en aille. Il ne pouvait me punir ainsi, moi qui croyais en lui. Question terrible et naïve que j'en répétais à l'infini. Pourquoi? Moi, pourquoi? Notre famille, oui. Question naïve, car que peut-on comprendre? Le désespoir était prêt à me cueillir et j'ai trouvé la force de le refuser. Précisément parce que je crois en Dieu. Il venait de placer sur mon chemin la plus grande épreuve qui soit pour un père. Mais si je croyais en lui, je devais poursuivre ce chemin. Je me suis rapproché d'autres parents qui avaient connu le même malheur. Je me suis vu infiniment petit parmi ces millions de gens dont la peine était aussi forte que la mienne. Non, je ne désespérerai pas parce que la vie éternelle, quand l'amour de Dieu nous aura rachetés de notre misère, est ce que j'attends. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, l'occasion de rencontrer un prêtre orthodoxe, un homme remarquable d'intelligence et de bonté. Nous avons parlé de ma fille. Il m'a dit qu'il prierait pour elle. Il m'a demandé quand Caroline était née au ciel, au-delà de la grande et simple beauté de cette expression. Il y a cette vérité de la vie éternelle de Dieu qui nous aime. Voilà ce qui me fait espérer et chaque jour avancer un peu plus. Je ne sais si ma réaction, ma réflexion a été une forme de courage, de dignité. Le courage de Virginie Chénita. C'est elle qui m'a tenu la main. Son chagrin ne s'estompera jamais. Mais quelle force, mon Dieu, quelle admirable force vous lui avez donnée. La plus émouvante dignité, je l'ai vue chez ma fille Nathalie, si jeune pourtant, sortant de l'adolescence, mais qui faisait face.
Thank you.
vous l'ai dit, la mort de sa fille, survenue en plein succès de La Cage aux Folles. C'est très curieux. Michel Serrault a trouvé le courage. On a vu dans les quelques lignes qu'il a écrites bien plus tard à quel point il était ravagé, et pourtant, 2 jours plus tard, il remontait sur la scène du théâtre, il reprenait La Cage aux Folles, il faisait rire le public qui ne demandait que ça. Avec cette sobriété dans l'expression des sentiments, qui est souvent la marque des grands comiques. Alors, bien sûr, devant un tel succès au théâtre, les producteurs de cinéma ne pouvaient pas manquer de s'intéresser à La Cage aux Folles. Alors, on a trouvé que Jean Poiret, au point de vue cinéma, n'était pas assez rentable, n'était pas assez publicitaire. Évidemment, on ne pouvait pas changer Michel Serrault, on ne change pas un acteur comme Michel Serrault jouant dans un Napoli. Alors, on a fait appel à une vedette italienne qui, même s'il n'était qu'un second choix, a joué le jeu avec beaucoup d'humour et beaucoup d'élégance, Ugo Tognazzi. Et Ugo Tognazzi a pris la place de Jean Poiret au cinéma. Peut-être n'était-il pas indispensable de faire La Cage aux Folles 2, La Cage aux Folles 3, mais bon, ce sont les règles du cinéma. Mais d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, et La Cage aux Folles 3 n'a pas eu un succès digne de rester dans les mémoires. Et en même temps, Michel Serrault continue sa carrière. Il participe à des films plus ou moins réussis. Buffet froid de Bertrand Blier aux côtés de Bernard Blier, de Jean Carmet, de Gérard Depardieu. Pile ou face, où il se trouve face à Philippe Noiret. Et un film qui, quand même, est resté dans la mémoire. La meilleure preuve, c'est que il est régulièrement rediffusé à la télévision. Il s'agit de Garde à vue. Garde à vue, c'est un film de Claude Miller aux côtés de Lino Ventura, de Guy Marchand, et dans un rôle, disons, moins évident, Romy Schneider. Et ce fameux film Garde à vue lui a valu son second César après, je rappelle, La Cage aux Folles. C'était en 1982. Il incarne à merveille un personnage ambigu, un personnage insaisissable, fuyant, aux côtés d'Alino Ventura, bien sûr, magistral. Alors, il fera aussi des choses moins, peut-être moins intéressantes. Par contre, il sera magistral dans un film de Claude Chabrol, Les fantômes du Chapelier. Et les fantômes du Chapelier, c'est quoi l'histoire? Ben, le Chapelier, c'est Michel Serrault. Et très vite, on sait enfin, on sait ou on devine qu'il a assassiné sa femme, ce qui ne se fait pas. Bon. Et il a un voisin, joué de façon magistrale par Charles Aznavour, qui a compris d'où venaient ces meurtres qui se multiplient dans la ville. Tout simplement parce que le chapelier en question, joué par Michel Serrault, doit supprimer les amis de sa femme qui, si elle venait chez lui, se rendrait compte que sa femme n'est plus là. Il dit que sa femme est garde de la chambre, mais si les amis viennent, elles verront bien qu'il n'y a personne dans la chambre. Solution logique finalement. Il supprime une à une toutes les amies de sa femme. On peut deviner que Chabrol a pris un plaisir infini à tourner ce genre de film. Et voici ce que Michel Serrault dit à propos de ce film. Je m'amusais à faire une sorte de clin d'œil à Chaplin dans Monsieur Verdoux. quand je suis debout derrière Monique Chaumette et prêt à l'étrangler. J'étais heureux de jouer avec Aznavour, qui faisait le tailleur que je prends plaisir à tourmenter. Ah oui, quel pied que ce rôle, et quel chaperon grand cru que ces fantômes du Chapelier. Un deuxième film avec Claude Chabrol, ce sera « Rien ne va plus » quelques années plus tard. Et il continue aussi à jouer notamment avec Jean-Pierre Mocky, dans un film que personnellement je trouve très réjouissant, surtout de la part d'un catholique sincère, affiché et affirmé, comme Michel Serrault. De quoi s'agit-il ? Bien sûr, il y a un personnage qui joue les paralysés pour toucher une assurance. Laquelle assurance envoie un inspecteur pour vérifier si ce paralysé est vraiment paralysé. Alors, celui qui simule la paralysie, c'est Jean Poiré. L'inspecteur, c'est Michel Serrault qui, lui, est muet. Et voilà donc le faux paralytique qui va à Lourdes, espérant un miracle, enfin disons, cela lui permettrait de ne pas passer le reste de sa vie dans un fauteuil. Et puis, arrivé dans la grotte miraculeuse, accompagné par une bénévole jouée par Jeanne Moreau, voilà que tous les deux tombent à l'eau. Et c'est là qu'a lieu le miracle, ou plutôt un double miracle. Puisque le faux paralysé, après être tombé dans l'eau de Lourdes, devient un vrai paralysé. Et que l'inspecteur, qui ne parlait pas, lui se met à parler, mais il ne peut parler qu'anglais. Alors si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous conseille de le voir, ou éventuellement de le revoir. Et Michel Serrault, je voudrais aussi dire une chose. C'était quelqu'un qui avait un peu le culte de l'amitié. Voici ce qu'il écrit, par exemple, à propos de Brigitte Bardot. Pourtant, on pourrait penser qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Et voici ce qu'il écrit à propos de Brigitte Bardot. J'ai toujours beaucoup aimé cette femme. Sa gentillesse, son intelligence m'avait touché, ne parlons pas de sa beauté. Elle jouait de façon vraie, spontanée, contrairement à ce qui a été répandu par les aigris des ratés professionnels. Je peux, il me semble, juger de la qualité d'une actrice aussi bien et sans doute mieux qu'eux, j'affirme que Brigitte Bardot était une grande comédienne. Humainement, elle est une femme formidable et il lui a fallu une sérieuse rapace de courage pour résister à la méchanceté, à l'injustice qui l'ont accablée. Alors, Brigitte, je vous fais un petit salut amical, vous demande comment je dois faire pour marquer mon autorité auprès du brillard de ma petite fille, car c'est moi qui vais le promener. Voici également quelques mots à propos de Francis Blanche. Francis Blanche, c'était un homme incroyable, doué pour la poésie, la musique, la cuisine, la comédie, la farce, tout, pourvu que ce soit énorme. Francis Blanche était un ami de Poiré et Serrault depuis nos premières tournées. À Paris, on le voyait souvent et lorsqu'il nous baladait dans sa voiture américaine, il inventait des chansons qu'il entonnait à tue-tête. Il improvisait des textes, poignant nos poésies, il cherchait des slogans dont il se servait par la suite. Il a créé devant Jean et moi le fameux « Pour que l'école dure, ami donné ». Un jour, il s'est arrêté pour demander aux passants de signer une pétition intitulée « La chasse à la baleine, c'est assez ». Un charme fou, un esprit vache à faire peur. Il faisait partie, je crois, de ces gens qui nous ont été prêtés, qui nous sont repris un jour, peut-être parce que nous n'avons pas su les aimer assez. Mais les pages les plus belles, sans doute, qu'a écrite Michel Serrault sur l'amitié, et il ne faut pas s'en étonner, C'est les pages qu'il a consacrées à son ami Michel Poiré, qui est décédé en 1992. C'était un dimanche soir. Tu étais interviewé à la radio, il s'adresse à Jean Poiré. Tout d'un coup, tu as clos toi-même l'entretien, et maintenant, excusez-moi, je voudrais juste passer un message à l'intention de monsieur et madame Serrault. Ils peuvent mettre le rôti au four, j'arrive. Et voilà ce que nous ne nous étions jamais avoués. Nous étions heureux de nous retrouver, voilà tout. Ce n'est pas grand-chose peut-être, mais notre vie et même notre secret sont tout entiers contenus dans cette phrase, heureux d'être ensemble. Ils existent pourtant ceux qui n'auraient jamais parié sur nous. Ils existent aussi ceux qui auraient tant aimé qu'on se sépare, qui se sont parfois bien agités dans ce but. Nous en avons assez ri tous les deux, tu te souviens? Comme tu me manques, Jean. Toi, tu as su tout dissimuler sous le rire. Moi, j'y parviens de moins en moins. Je ne dis pas, je parle peu de ces choses, mais à toi, à quoi servirait de cacher ce qui se passe sur mon cœur? Nous n'allons pas commencer aujourd'hui à jouer faux. À propos, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ensemble la prochaine fois? J'ai bien une idée, mais avec tout ce que tu as dû écrire, j'imagine qu'on est paré pour un bon bout de temps. Mon idée, c'est que tu sois enfin Mosca et moi Volpone. Car nous sommes arrivés à ce moment où rien n'est plus utile que de rejoindre nos rêves. Les nôtres, c'est nos 20 ans, les coulisses du Sora Bernard, la cave de Saint-Germain, les cabarets d'après-minuit, la cloche d'or. Oui, Jean. Un jour, nous rejouerons ensemble, Volpone, Mosca et les autres, parce qu'il est écrit quelque part que nous n'allons pas finir avec notre jeunesse. Et que Dieu lui-même a peut-être dit, Poiré et Serrault, voilà deux bons clowns. À quelle heure ils passent? Et Michel Serrault continue, vaille que vaille, à faire ce métier qu'il a tant aimé et pour lequel il a t'en donner.
Thank you.
1992, Laurent, les choses ne seront plus tout à fait les mêmes. Mais il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'il ne tournait pas, souvent, très souvent, Michel Serrault était sur scène, au théâtre. En 1986, c'était L'Avare de Molière. En 1992, c'était Knock de Jules Romain. Je crois que Michel Serrault n'a jamais connu ce trou noir qui menace tant de comédiens, ce trou noir où on attend un coup de fil, on espère une rencontre, peut-être un contrat qui va arriver. J'ai l'impression que Michel Serrault n'a jamais eu de moment où il ne travaillait pas. Alors, il tournera notamment un film, disons, troublant, En toute innocence d'Alain Gessua, où il traque sa belle-fille Nathalie Baye. Me garderai bien de vous en dire plus sur le film si vous avez l'intention de le voir. Il tourne aussi dans un polar, Ne réveillez pas un flic qui dort, face à Alain Delon. Ce qui est étonnant, c'est que Michel Serrault, dans ce film d'ailleurs, joue un policier et Alain Delon joue également un rôle de policier. Il va ensuite tourner un de ses films les plus noirs au sens où on se demande quelle justification on peut trouver au personnage. C'est le docteur Petiot. Le docteur Petiot, pour mémoire, c'est ce médecin qui, sous prétexte de leur venir en aide, a tiré des juifs dans sa cave et les massacrait. Voici ce que Michel Serrault écrit à ce propos. Je cherchais un personnage qui fut une sorte de concentré des salauds et des monstres que j'avais joué depuis plusieurs années. Une espèce de rencontre au sommet des forces du mal chez un être qui, par ailleurs, montrait le visage d'une personne ordinaire pouvant côtoyer, voire faire le bien. En fait, je voulais, au travers d'un personnage, souligner que le manichéisme n'existait pas, que les jugements radicaux que l'on porte sur les êtres sont parfois plus dangereux que les êtres eux-mêmes. C'est pourquoi je me suis intéressé à Marcel Petiot, le médecin assassin des années d'occupation, qui voulait juifs et non-juifs avant de les faire disparaître dans sa chaudière. On ne pouvait guère aller plus loin dans l'abomination, mais au-delà du cas clinique, il m'intéressait de voir le basculement entre les notions convenues d'humanité et d'inhumanité chez un type. Dans le genre, ça a été quand même une réussite, vu les intentions de l'auteur. Signalons aussi, mais là, je pense que ce sera plus difficile pour vous de le revoir. En 1978-77, il a tourné pour une série télévisée remarquable qui s'appelle « Les Folies Offenbach ». Il joue le rôle de Jacques Offenbach, le compositeur, et tout au long des épisodes, on assiste à la naissance des principaux opéras et opéras comiques de Jacques Offenbach. Si jamais vous trouvez dans une médiathèque quelconque un enregistrement, essayez au moins de regarder un épisode ou deux. Croyez-moi, ça vaut le temps que vous allez passer à le regarder. Alors, il joue aussi dans Beaumarchais l'insolent pour la télévision. Il joue le rôle de Louis XV. Et vers la fin de sa vie, il va tourner quelques films où on sent une envie profonde, sans doute chez lui, de revenir à la terre, avec Le bonheur est dans le pré, Les enfants du marais, Une hirondelle ne fait pas le printemps, Le papillon. Tous ces films sont quand même peut-être pour lui comme une réconciliation avec un terroir, avec des racines, avec quelque chose qui sans doute le dépasse. Alors, Jean Poiré disparu, une de ses filles disparue, Michel Serrault va s'éteindre tranquillement en 2007. Et ce qui est étonnant, c'est que la femme de sa vie, celle pour qui il avait renoncé à devenir prêtre à cause du vœu de chasteté, Juanita Saint-Péron, ne lui survivra qu'à peine un an, peut-être, parce que en perdant son mari, après avoir perdu une de ses filles, elle s'est dit qu'il était temps de rejoindre ce clown qui avait certainement dû la faire beaucoup rire en famille, comme il a fait beaucoup rire, et pendant des dizaines d'années, des millions de spectateurs, des millions de téléspectateurs et des millions de cinéphiles. Alors, Michel Serrault a marqué son époque. Je crois qu'on peut après sa mort, lui dire un grand merci, Monsieur Serrault, et un grand merci à vous pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir. Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
J'ai reçu ce mail écrit par une mère à propos de sa fille. Il parle des excès, des challenges, des défis avec les interdits, dépasser les limites à la folie. Confidence internet, je comprenais pas pourquoi elle m'écrivait tout ça. Moi j'y pouvais quoi. Comme un marin perdu qui lance un SOS au détour d'une phrase, message de détresse. Elle écrivait pour dire toute sa tristesse de voir son enfant envahi de faiblesse. Oui, le chair de sa chair vivant à côté d'elle dans un petit deux pièces qu'elle voyait jour après jour perdre sa jeunesse. Quand le corps s'atrophie, l'esprit s'asphyxie aussi. Les étoiles s'éteignent petit à petit dans la galaxie de l'anorexie. Les jeunes filles qu'on croise dans la rue comme des anges déchus, celles qui nient ce qui se mange, cuit ou cru, privation ou addiction, celles qui se font vomir pour se plaire à elles-mêmes ou alors pour séduire, bien je sais pas moi, image effacée, vierge lascive. Haut emblème, celle qui se refuse à aimer comme elles veulent qu'on les aime. Il faisait beau ce jour-là et je ne sais pas pourquoi je me suis mise à croire qu'un jour les mots reviendraient dans la bouche de ceux qui sont d'un secret.
Les étoiles s'éteignent petit à petit dans la galaxie de la nourriture.
J'ai souvent galopé loin comme un cheval gourmand pour aller brouter l'herbe chez la voisine. Alors quand je pense à toi, un frisson parcourt mon échine. Translucide, opaline, délicate, éphémère, aux beautés légères, si légères. Tu pourrais disparaître au moindre courant d'air. Petite fée fragile, si légère. Quand le corps s'atrophie, l'esprit s'asphyxie aussi. Les étoiles s'éteignent petit à petit dans la galaxie de l'anorexie.